Au rythme du parc. Une émission dédiée au parc du Vercors et à son actualité. Produite par Erdiwa et financée par le parc naturel régional du Vercors. Au rythme du parc. Comme si vous y étiez. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Au rythme du parc à l'écoute sur le 107.5 FM et sur le site www.rdwa.fr. Ce numéro est aujourd'hui consacré à l'itinérance et refuge d'altitude sur le parc naturel régional du Vercors. Donc pour évoquer ce sujet, je suis en conversation téléphonique avec Stéphane Fayola, chargé de mission pour ce même parc. Alors pour commencer, bonjour Stéphane. Alors pour éclairer nos auditeurs, peut-être pourriez-vous nous expliquer quel est votre rôle, votre mission au sein du parc naturel régional du Vercors ?
Oui, donc en fait je fais partie de un petit groupe de 5-6 personnes au niveau du parc du Vercors, on va dire regroupées au niveau du tourisme en général. Hein, on est un petit pôle en charge des relations accueil du public et tourisme. Donc moi mon rôle consiste essentiellement en la gestion, en l'entretien de tout ce qui touche à la signalétique et au sentier de randonnée. Donc ça passe par le balisage des itinéraires, la signalétique sur site. On édite également des cartes de randonnée hein, appelées cartes au guide. Donc c'est une collection de 6 cartes réparties sur l'ensemble du territoire, 3 cartes sur l'Isère et 3 cartes sur la Drôme. Et c'est donc le parc et moi-même qui sont en charge de rééditer ces cartes, de les mettre à jour, de les diffuser et de les illustrer. Et ensuite, un autre volet assez important de mon travail consiste un peu à la coordination de l'équipe de gardes verts, on peut appeler les gardes verts ou les éco-gardes hein, du parc. Donc c'est 6 personnes qui sont là 6 mois de l'année, de mai à octobre sur l'ensemble du territoire, et qui sont donc au service du territoire, des élus, des citoyens, qui ont une grosse action évidemment de terrain hein, avec l'entretien du balisage et de la signalétique. Et puis toutes sortes de choses, des comptages sur la faune, sur la flore, de l'accueil du public sur les sites sensibles, des missions de surveillance, voilà. Globalement, les principales missions qui m'occupent au parc.
Donc, grosse équipe, belle mission en tout cas. On va éclairer un petit peu nos auditeurs, hein, puisqu'on parle d'itinérance et de refuge d'altitude. Mais avant d'évoquer plus précisément ce qui touche le parc naturel régional du Vercors, j'aimerais que nous différencions une cabane d'un refuge ou d'un gîte.
Oui, alors c'est vrai que sur l'ensemble du territoire du parc du Vercors, nous avons quand même une quantité importante d'abris ouverts au public. Hein. Alors, quand on parle d'abris ou de cabane, c'est vraiment, ça peut être quelque chose de sommaire, simplement pour s'abriter en cas de mauvais temps ou d'orage, par exemple. Donc c'est des abris, on va dire, pour 90% des cas, ouverts au public toute l'année. Il n'y a pas besoin de réservation, la porte n'est pas fermée à clé. Ça, c'est vraiment des cabanes qui très souvent appartiennent soit aux communes, soit à l'Office national des forêts, plus rarement à des propriétaires privés qui laissent éventuellement le public s'installer librement dans leur cabane. Donc c'est des cabanes qui sont très utiles au niveau de la randonnée itinérante, évidemment, puisque souvent elles servent de lieu pour passer la nuit, pour se restaurer, pour s'abriter. Ensuite, on distingue évidemment les refuges. Alors les refuges, je ne sais pas comment on peut le penser, des refuges d'altitude comme on a dans les grandes stations de ski de Savoie ou Haute-Savoie. Mais on a quand même une petite quantité de refuges gardés, cette fois, avec un accueil du public, avec de la restauration rapide, des nuitées possibles, etc. Donc ça, c'est vraiment des refuges gardés qui ont une autre notion, même si ils sont utilisés, évidemment, par les randonneurs itinérants, notamment tous les randonneurs qui parcourent la grande traversée du Vercors. Voilà, globalement, un peu la distinction entre ces abris-cabanes qui couvrent vraiment l'ensemble du territoire du parc, et ces refuges gardés. qui ont quand même une autre vocation.
Alors, les cabanes, si je comprends bien, c'est à titre gratuit, hein, c'est libre d'occupation, j'ai envie de dire. Et tout ce qui relève type gîte, refuge, là, pour le coup, c'est gardé. Et il y a des services payants.
Oui, tout à fait. Donc, en fait, les refuges gardés, comme son nom l'indique, hein, sont gardés toute l'année par des personnes qui assurent une restauration ou la nuitée payante avec des services à la clé, hein. Et donc c'est effectivement souvent beaucoup plus confort, hein, puisque un abri, honnêtement, on n'y trouve vraiment qu'une table, deux chaises et éventuellement des bas-flancs pour dormir. Donc là, le refuge, il se veut quand même avec un accueil de qualité, des prestations de service aux clients. Voilà, c'est une autre démarche. C'est une autre façon d'aborder en fait la montagne et la randonnée. Hein.
Je crois que ce qui caractérise le parc naturel régional du Vercors sont ces fameuses cabanes. Mais peut-être auriez-vous des ambitions d'achat ou de mise en place de refuges un petit peu plus élaborés ?
C'est vrai qu'on a entamé depuis quelques temps maintenant une grosse réflexion sur ces abris-cabanes. Parce que pour la plupart, ils sont relativement anciens maintenant. Certains sont en assez mauvais état, évidemment. Donc on essaye petit à petit, mais c'est assez compliqué, hein, parce qu'il faut déjà résoudre tous les problèmes fonciers, rentrer en contact avec les différents propriétaires et puis ensuite monter un programme autour de ces éventuelles restaurations de cabanes. Mais on envisage sur les 5 ans à venir de cibler, on va dire, 5 ou 6 cabanes stratégiques sur l'ensemble du territoire et éventuellement de faire des petits travaux de rénovation, de restauration, améliorer si possible l'accueil des randonneurs en mettant tout simplement leur service, en surveillant en tout cas qu'il y a toujours un minimum pour entretenir le refuge, à savoir pelle, pioche, balai pour nettoyer, etc. Des choses très simples mais qui ne sont pas toujours présentes sur les cabanes. Voilà, donc en fait on envisage assez fortement de remettre en état ces abris et cabanes, bien sûr avec l'aide des propriétaires concernés, hein, parce que c'est assez compliqué à mettre en œuvre. Et puis après, éventuellement, monter des dossiers avec les financeurs pour pouvoir concrètement passer à des étapes de travaux assez conséquentes.
Ces gîtes seraient-ils à disposition aussi des accompagnateurs de montagne, hein, qui ont une activité plus indépendante, j'ai envie de dire?
Oui, donc on travaille bien sûr en partenariat avec les accompagnateurs. Ils ont accès aussi bien que tout le monde, hein, à ce type de refuge ouvert au public, à cette cabane. C'est souvent eux aussi qui sensibilisent le public au respect et à l'entretien de ces abris. Donc voilà, les accompagnateurs, de par ce biais, jouent un rôle important aussi. C'est souvent eux qui nous font remonter les informations justement liées à des problèmes d'entretien ou de dysfonctionnement sur les abris et cabanes. Comme ils sont très souvent sur le terrain, et ils nous font remonter ce type d'informations. Voilà, donc en fait, on travaille vraiment en partenariat avec tous les acteurs locaux pour pouvoir améliorer au mieux ces cabanes sans engendrer des coûts trop conséquents.
Bon, bah, c'est une bonne nouvelle, j'ai envie de dire. Et rendez-vous dans 5 ans. Donc, hein, on verra où le dossier nous vous a mené. Hein. Aujourd'hui, est-ce que votre équipe au sein du Parc naturel régional du Vercors propose des itinéraires de randonnée, des circuits tracés, dessinés par des professionnels?
Alors, ce qui se passe, c'est qu'en fait, sur le terrain, sur le territoire du parc, effectivement, c'est nous qui avons, on va dire, la maîtrise et la gestion de l'entretien, de la signalétique et du balisage des itinéraires. Donc, c'est par le biais donc des gardes verts, hein, que le travail est fait de mise à jour du balisage, de la signalétique. Et en fait, tout ce réseau d'itinéraires qui est assez conséquent, puisqu'aujourd'hui, on a plus de 3000 km d'itinéraires balisés sur l'ensemble du territoire. Ce réseau est complété par une offre de cartes au guide, hein, donc de collection de cartes, comme je l'ai dit tout à l'heure, et dans lesquelles on retrouve des balades commentées. Alors ces balades, en fait, c'est souvent les balades un peu phares de chaque commune qui vont mettre en évidence du patrimoine ou des lieux historiques ou des belvédères, des choses à ne pas manquer sur la commune. Et ces balades commentées, qui sont au nombre de, alors c'est variable, hein, de 2 à 5 selon les communes, sont toutes répertoriées dans ces documents qui sont en vente dans les offices de tourisme, hein, qui sont disponibles au niveau des offices de tourisme du territoire. Et c'est des documents qui sont intéressants puisqu'ils sont remis à jour, réédités tous les 4 à 5 ans environ, Donc ça nous permet aussi d'être réactifs en fonction des choses qui se modifient sur le terrain, des changements de parcours ou éventuellement des changements aussi d'hébergeurs, puisque ça arrive assez souvent. Voilà, donc c'est un document qui synthétise un peu tout ça avec des balades détaillées, accessibles à tous les publics, hein, à tous les niveaux de difficulté. Pour chaque balade, en fait, on a un petit cartouche, hein, qui reprend à la fois la durée du circuit, le dénivelé, la distance et le niveau. Donc tout est détaillé sur l'en-tête de la balade et ça permet de savoir si c'est praticable aussi à pied, à cheval ou en VTT ou uniquement à pied quand il y a des passages un peu délicats. Donc tout est détaillé dans ces balades. Effectivement, on spécifie à chaque fois si c'est une balade recommandée plutôt en famille ou pas, avec la distance, le temps, etc.
Autant de précisions hein, pour pouvoir apprécier en toute connaissance de cause une bonne rando, voilà, sans mauvaise surprise, j'ai envie de dire.
Oui, tout à fait, oui.
Le parc naturel régional du Vercors est aussi une réserve naturelle, hein, la réserve naturelle des hauts plateaux. Alors, si vous le voulez bien, on va rappeler quelques règles, quelques précautions d'utilisation, d'usage lorsque l'on est sur cette réserve naturelle.
Alors oui, la réserve naturelle des hauts plateaux, qui est un peu le cœur, hein, le cœur du parc, est effectivement un espace protégé avec une réglementation spécifique. La réglementation concerne principalement la gestion, enfin la cueillette des fleurs, hein, qui est effectivement interdite, hein, sur les hauts plateaux. Les chiens sont interdits aussi sur tout le périmètre de la réserve naturelle. Voilà, des choses comme ça. Évidemment, le feu est interdit sur l'ensemble de la réserve. Il faut savoir que donc les itinéraires de randonnée sont peu nombreux sur la réserve naturelle, hein. Il n'y a que deux itinéraires balisés qui traversent la réserve du nord au sud, à savoir le GR91 et la Grande Traversée du Vercors. Donc ça, c'est une volonté aussi d'essayer de canaliser le public sur des itinéraires balisés assez peu nombreux. Après, effectivement, chacun est libre de pouvoir partir à l'aventure avec une carte, une boussole sur l'ensemble de la réserve, s'il en a envie.
Donc là, vous avez évoqué hein, ces fameuses deux grandes randonnées hein, qui concernent cette réserve naturelle des hauts plateaux. En ce qui concerne les autres, je crois que la réglementation dépend de la commune sur laquelle cette zone se situe.
Sur l'ensemble des communes du parc, hors réserve naturelle, c'est effectivement le maire qui prend en charge la police sur sa commune, hein. C'est ce qu'on appelle le pouvoir de police du maire. Et c'est chaque maire qui exerce son pouvoir de police comme bon lui semble et qui prend des arrêtés en ce sens pour interdire ou réglementer certaines pratiques ou certaines utilisations.
Est-ce qu'elle diffère beaucoup de celle de la réserve naturelle des hauts plateaux?
On peut quand même dire que globalement, les arrêtés sur les communes hors réserve sont quand même plus souples et permettent plus de choses que sur la réserve naturelle. Alors, faut pas non plus penser que tout est interdit sur la réserve naturelle, hein, c'est pas du tout le cas. Mais c'est vrai que la réglementation, elle est stricte, et donc, on va dire, la dizaine d'interdictions, qui est, spécifiée à la fois sur le règlement intérieur de la réserve, sur les panneaux de porte d'entrée, celle-ci, elle doit être connue, de tous ceux qui veulent pénétrer sur la réserve naturelle. Et voilà, effectivement, on n'est pas censé ignorer cette réglementation. Donc après, chacun, est libre de prendre ses responsabilités et de faire avec.
Si toutefois ces précautions n'étaient pas respectées et qu'un éco-garde venait à constater, je ne sais pas si on peut parler d'effraction, mais admettons un randonneur avec un bouquet d'orchidées entre les mains, que se passe-t-il?
Alors oui, c'est effectivement une bonne question. Alors sur la réserve naturelle, c'est un peu différent. Ce ne sont pas les éco-gardes qui interviennent directement parce qu'ils n'ont pas de pouvoir de police. Ils ne sont pas commissionnés en fait au titre des missions de police de l'environnement. On a cinq gardes permanents qui agissent, enfin, qui travaillent spécifiquement sur le territoire de la réserve naturelle, qui eux sont commissionnés et donc aptes à effectivement dresser des procès-verbaux en cas d'infraction liée à la réglementation de la réserve. Donc ensuite, en fonction du type d'infraction, le garde en question peut verbaliser la personne, en fait avec un timbre amende notamment. Et voilà, ça arrive pas tous les jours, mais ça peut arriver.
Ça arrive parfois, mais oui, ça se respecte, une nature aussi belle que la nôtre. Hein. Je ne vous ai pas demandé, mais sur le parc naturel régional du Vercors, combien de cabanes sont à disposition? Est-ce que vous avez une idée du parc cabane?
Effectivement, on a essayé de faire un recensement un peu exhaustif du nombre de cabanes ouvertes au public sur l'ensemble du territoire. On aurait environ une trentaine d'abris, cabanes libres, enfin libres d'accès au public, hein, souvent à proximité des sentiers de randonnée, bien sûr, avec donc des, comme je vous disais tout à l'heure, des états plus ou moins sommaires hein, en termes de qualité d'hébergement. C'est pareil, on a toutes sortes de dimensions de cabanes. Hein, il y a des cabanes où on peut coucher à 20 personnes, d'autres à 3 ou 4 uniquement, donc. Voilà, c'est assez varié, mais on peut compter, voilà, en gros, sur une trentaine d'abris cabanes ouverts au public sur le territoire.
D'accord, vous n'avez pas une idée, là, pour le coup, ça risque d'être un petit peu plus compliqué, mais entre deux cabanes, il n'y a pas de distance moyenne, pour le coup, vu que ce sont des constructions, j'ai presque envie de dire anarchiques, mais...
Oui, alors, effectivement, là, sur... au niveau de la distance entre deux abris, c'est justement... un problème aussi auquel on est confronté, parce que pour pouvoir faire de l'itinérance sur un massif tel que le Vercors, il y a malheureusement des secteurs encore du parc qui ne sont peu ou pas équipés de ce genre d'abri et qui permettent pas forcément de traverser un secteur, par exemple, sur une journée parce qu'on a un manque d'hébergement et un manque de possibilité de dormir dans une de ces cabanes. Donc ça, c'est très aléatoire. Hein. On a des secteurs qui sont assez riches et assez bien fournis en termes d'abris, et d'autres, par contre, qui sont très pauvres et très mal desservis. Voilà, mais ça, c'est vrai que c'est l'histoire qui a façonné tout ça. Et aujourd'hui, honnêtement, il n'y a pas vraiment de programme de construction proprement dite sur des massifs qui sont un peu dépourvus de ce type de... d'abri.
En tout cas, bientôt des gîtes hein, pour venir équiper le parc d'autres possibilités d'accueil. Si l'un de nos auditeurs avait envie de se renseigner sur la question de l'itinérance des refuges, notamment sur le parc naturel régional du Vercors, comment pourrait-il le faire?
Eh ben, c'est tout simple en fait. Hein, il suffit de nous contacter directement au siège du parc du Vercors à Lens-en-Vercors, donc au 04 76 94 38 26. Ou éventuellement de prendre contact avec moi directement donc par le biais du standard du parc.
Donc vous, Stéphane Fayola.
Voilà, c'est ça.
Si je vous laissais l'opportunité du mot de la fin, que diriez-vous?
Peut-être dire qu'effectivement, le Vercors est un massif assez riche et assez exceptionnel, hein, avec une variété de paysages, d'espèces faunistiques, floristiques. Je pense qu'il n'y a quand même pas beaucoup de territoires en France qui peuvent se vanter d'avoir une telle variété, une telle richesse de choses exceptionnelles à découvrir. Au niveau de la randonnée, ça c'est une certitude, on est pareillement sur des choses assez rares avec une diversité d'itinéraires très importante, des milliers de kilomètres aménagés, balisés, sécurisés. Voilà, donc vraiment une multitude de possibilités, des activités vraiment qui foisonnent. Voilà.
Effectivement, ce parc est beau et profitons-en tout simplement.
C'est sûr.
Merci Stéphane Fayola de toutes ces précisions. Et puis, bien, je vous donne rendez-vous hein, pour que vous-même écoutiez cette émission. En tout cas, cette émission, elle, sera disponible hein, en podcast sur le site www.rdwa.fr dès à présent dans la rubrique Au rythme du parc. Et vous y retrouverez, bien sûr, tous les précédents numéros. Je vous remercie et à bientôt, Stéphane.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Capsule. Une émission dédiée au parc du Vercors et à son actualité. Produite par RDWA et financée par le parc naturel régional du Vercors. Capsule. Capsule. Comme si vous y étiez. Dans cette capsule au rythme du parc consacrée à l'itinérance et refuge de montagne. Nous allons à la rencontre d'Éric Charron, accompagnateur de montagne indépendant. Alors bonjour Éric.
Bonjour. Eh ben, c'est assez simple. Moi, je suis accompagnateur en montagne, c'est-à-dire que mon métier, ça consiste à encadrer de la randonnée à pied en été et en hiver, avec différents publics, c'est-à-dire à la fois j'ai des publics un peu particuliers, je vais travailler du côté du social, on va dire, avec des adolescents, et puis je travaille du côté du tourisme, où là je m'adresse à des clientèles d'adultes ou de familles qui veulent venir faire de la randonnée dans le Vercors, mais aussi il m'arrive fréquemment d'aller me promener ailleurs en France avec mes clients, voire même de dépasser les frontières et d'aller à l'étranger. Je peux travailler à la journée pour des gens qui viendraient une journée sur le Vercors, voire même une demi-journée avec certains publics, des classes ou des demandes comme ça. Après, moi, j'essaye de me concentrer le plus possible sur du travail en séjour. J'aime bien passer du temps avec les gens, faire connaissance, et puis quand le séjour, il peut être chez moi sur le Vercors, en termes d'économie, j'amène quelque chose au Vercors, puisque séjour, ça veut dire on héberge les gens, on les fait manger, on transporte, donc il y a des retombées, quoi. Donc, aujourd'hui, dans le cadre du séjour, et je pense que je suis pas le seul à le dire, on peut faire du séjour en étoile, c'est-à-dire on est dans un hébergement et tous les jours on sort sur une randonnée différente, où on essaye de faire aussi du séjour, ce qui est très prisé dans le tourisme de randonnée, du séjour itinérant. On change d'hébergement tous les soirs et on se déplace d'un hébergement à l'autre à pied. Alors bon, ici sur le Vercors, on va parler du Vercors drômois, puisqu'on est dans la Drôme. Dans l'Isère, c'est un peu moins sensible, mais ça l'est aussi. On a deux problèmes. On a un problème, d'abord, on a la gare TGV de Valence en dessous de nous qui met Paris à 2h, Londres à 4h. Et après, on a une espèce de hiatus. C'est difficile, depuis cette gare TGV de Valence, d'accéder au Vercors. Ça, c'est un problème structurel et on n'y peut pas grand-chose. Alors, il existe des systèmes, il existe un peu des bus, mais pas assez à notre goût. Et le deuxième chose, quand on met en œuvre ce genre de tourisme un peu itinérant, on a un choix d'hébergement, qui parle d'hébergement, des hébergements qui accueillent des gens en étapes, qui accueilleraient des gens pour une nuit, qui est assez réduit. Un, on est très en concurrence les uns avec les autres pour l'accès à ces hébergements. Et puis deux, par exemple, quand on voit un gîte d'étape qui ferme à la Chapelle en Vercors, eh ben, pour nous, c'est très compliqué. Ou récemment, on a eu le refuge de Fondure, aussi, qui a fermé, puisqu'il avait des problèmes de structure et il venait dangereux. Du coup, ça nous fait l'étape de Fondure, elle nous manque énormément dans la construction de nos itinérances. Hein. Donc ça, c'est le deuxième sujet, et je pense que c'est peut-être celui où on a peut-être un peu des moyens d'agir, on va dire, de manque de densité d'hébergement. Je vous rappelle que quand on va un peu ailleurs, on est quand même dans un cadre de tourisme, même si on parle de nature, même si on n'aime pas trop parler d'économie. Malgré tout, le client qui est à Paris puis qui feuillette un catalogue d'agences de voyages de randonnée, il va choisir une destination. Et si je vais prendre des exemples, des endroits que je connais bien, la destination Jura ou la destination Kera dans les Alpes du Sud, où il y en a certainement d'autres, ils ont des densités d'hébergement qui fait que pour les accompagnateurs là-haut, c'est beaucoup plus facile que pour nous de construire du tourisme itinérant. Je veux concrétiser, alors j'ai un réseau que j'ai construit patiemment au cours d'une vingtaine d'années, donc j'ai plein de gens qui me connaissent, mais l'essentiel de mes séjours, ils sont vendus par des agences de voyage. Hein. Il existe en France un réseau d'agences de voyage qui sont spécialisées dans le tourisme de randonnée. Je me dis, mon métier, moi, c'est d'être sur le terrain, éventuellement de concevoir des séjours, les vendre beaucoup moins, quoi. Je travaille par l'intermédiaire d'agences de voyage. Donc, il y a des agences de pignon sur rue au niveau national. Les agences qui travaillent sur le Vercors, c'est Grand Angle, c'est Arcanson, Améaudre. Vercors Escapade, moi, dit. Je collabore pour mettre en place des séjours, pour encadrer leurs séjours ou pour vendre les séjours que j'ai conçus moi-même. Les gens me trouvent avec les gens qui me revendent. Bon, après, j'existe, je suis Éric Charron à la Chapelle en Vercors. C'est facile à trouver. Et puis après, mon adresse internet, c'est eric-charron@orange.fr.
Je vous remercie, Éric Charron, de votre participation à cette capsule pour l'émission Au rythme du parc. Moi, je vous dis au mois prochain. Vous retrouverez ce numéro sur le site www.rdwa.fr dans la rubrique Au rythme du parc. Merci, Éric.
Merci, je vous en prie.